Eh bien, bonjour à toutes et à tous, au moins pour ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de saluer. Très content de vous revoir ici. Et alors, sur ce sujet du Saint-Esprit, deux remarques introductives. La première, c'est qui suis-je pour en parler ? On parle de Dieu. Et donc, la deuxième remarque, c'est que ma présentation sera partielle, bien entendu, parce que Dieu est infini. Et elle sera aussi partielle parce que j'aurais fait un certain nombre de choix, d'angles de vue, pour vous partager quelques regards sur cette personne de la Trinité. Alors, j'aborderai ça en trois temps. Le premier, quand même, comme on fête, on est dans le week-end de la Pentecôte, revenir un petit peu sur cet événement pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait historiquement et quelle est la signification aujourd'hui. Et puis, pour passer le Saint-Esprit dans le plan divin, avoir une vision un petit peu plus transverse dans la parole de Dieu. Et en conclusion, le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Alors, je ne pourrais pas m'arrêter beaucoup parce que sinon, on en serait encore dans l'après-midi, encore quelques heures. Pardon. Je n'ai pas encore trouvé toute la bonne façon de maîtriser ça. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de la Pentecôte, il y a quand même quelque chose qui est de façon visible par les gens de l'époque, qui était absolument surprenant, c'est qu'avant la Pentecôte, on a des disciples qui sont globalement incrédules. Et on les voit, par exemple, sur le thème de la résurrection, jusqu'au bout, ils n'y ont pas cru. Et même lorsque les disciples d'Emmaüs reviennent, ils n'y croient pas. Quand les femmes reviennent, surtout des femmes, ils n'y croient pas. Donc on voit cette incrédulité jusqu'au bout, et elle est surprenante. On voit des disciples plutôt peureux qui s'enferment, et en particulier les hommes, parce que c'est les femmes quand même, hormis les femmes qui vont aller au tombeau, pas les hommes. On les voit ambitieux, encore se poser la question de qui va être le plus grand. Et puis on les voit, il y a une certaine, ils se disputent, il y a Pierre qui va mentir en disant non, je connais pas, je mens, etc., etc. Et on les voit fatigués. Et on pourrait continuer un tableau pas forcément extrêmement glorieux de ces disciples avec lesquels le Seigneur avait cheminé pendant 3 ans et demi. Et puis après la Pentecôte, il se passe quelque chose et d'un coup on voit des disciples qui sont courageux, qui ont une parole puissante. On voit Pierre avec sa première prédication, 3000 convertis. On les voit faire des miracles. Ils partent missionnaires. Ils vont presque tous finir en martyrs, hormis exception. Et dans des martyrs qui sont voilà, crucifiés, égorgés, etc., etc. On les voit plein de fois. On les voit avec de la sagesse. On les voit zélés. Un contraste saisissant entre le avant et l'après. Et c'est donc intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a transformé de façon aussi profonde les disciples à cet événement. Effectivement, c'est le point de rupture et le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Alors il faut, juste pour vous rappeler rapidement, mais c'est des choses que vous connaissez sans aucun doute, la Pentecôte faisait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Il y en avait une partie qui était les fêtes du printemps, qui commençait avec la fête de la Pâque et qui durait en fait 7 jours. Et à l'intérieur, il y avait la fête des azimes, des pains sans levain et des prémices. Et puis, ça se concluait 50 jours après avec la fête de la Pentecôte. Et donc, il y avait le deuxième volet qui était la fête de l'automne avec la fête des trompettes, des expiations et des cabanes ou des tabernacles. Et donc, ces 50 jours, et au cours de cette fête, il y avait 2 grands événements qui sont célébrés, à la fois la fête de la fin des moissons de blé, et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils fassent des 2 pains avec du blé nouveau. Et puis, c'était les 50 jours du don de la Torah lors de l'Exode, Et c'est ce qu'ils avaient calculé. Et donc, il y avait cette double célébration, à la fois la loi de Dieu et à la fois la fin de cette première moisson de blé. Alors, quand on est à Jérusalem, lorsque cet événement va se produire, on est dans un des grands événements auxquels les Juifs de l'ancien, non seulement d'Israël, mais de la diaspora, se devaient autant que possible de participer. Et à l'époque, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, à l'époque déjà, il y avait en gros, dans les calculs, là, vous avez une vision de l'Empire romain de l'époque. L'Empire romain est un petit peu étendu avec ses différentes phases. Et on disait qu'il y avait à peu près 1 million de Juifs en Israël et près de 6 fois plus dans la diaspora, à travers toute, que ce soit en Afrique du Nord ou en Italie, etc. Et donc, il y avait des centaines de... Alors, certaines estimations de Joseph, vous savez, l'historien, disaient qu'il y avait entre 200 et 300 000 personnes qui arrivaient dans cette petite ville de Jérusalem pour les fêtes. Et donc, ça grouillait de toutes parts. Et on comprend bien la situation. Et ça répond... Et cet événement qui va se produire dans cette période qui est dans Jérusalem après l'ascension du Seigneur, 50 jours, va répondre à ce que le Seigneur a répété à plusieurs occasions, et dont aussi les anges lors de l'ascension. Et on va lire ces trois textes. Et voici, je enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En Jean 14, et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Et comme il se trouvait il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, ça, c'était l'annonce qu'on a dans les différents évangiles, et on va relire ce texte de Acte 2, où cet événement va se produire, et quand le jour de la Pentecôte arrive, au terme des 50 jours, ils se trouvaient tous réunis ensemble. Soudain, un bruit survint, comme un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous les ciels. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Et dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthe, Mède et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie et de la Phrygie, et de la Pamphylie, et de l'Égypte, et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, ou des prosélytes, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie ? D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin, d'où ? Alors Pierre se lève debout avec les autres apôtres et élève la voix et leur fit la déclaration. Vous, Juifs, et vous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Un peu plus loin, c'est ce que Jésus C'est ce que Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans cet événement assez exceptionnel et unique, on voit, si je dois résumer ça dans quelques lignes, ils étaient tous dans un seul lieu. Alors il y a des grandes discussions de savoir où. Une des hypothèses les plus convergentes, c'est de la maison de Marc. Comme on le voit dans Acte 12, parce qu'il n'y en avait non plus pas tellement, ou c'était peut-être une dépendance du temple. Ils sont environ plus de 120. Et puis, il y a ce bruit comme un vent impétueux qui remplit toute la maison. Il n'est pas dit qu'il y a eu un vent, mais c'est le bruit d'un vent. Et puis, ces langues de feu qui se partagent. Donc, il y a à la fois l'idée d'une unité et d'une individualisation qui se produit. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et on voit qu'en conséquence, ils parlent selon la dictée du Saint-Esprit dans des dialectes qu'ils ne connaissaient pas, au moins 15 différents, et ils vont parler des merveilles de Dieu. Mais le plus beau, c'est la conséquence. La conséquence, c'est la prédication de Pierre, avec plus de 3000 conversions, et puis cette communauté vivante maintenant qui va vivre de façon, non pas se terrer dans une pièce en attendant que les choses se calment, mais qui va commencer à vivre la parole de conformément à la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Et on voit la crainte de Dieu qui est là, et on voit des prodiges et des miracles, ce service mutuel. Et puis, une église qui va croître de façon phénoménale. Et les historiens nous disent qu'à la fin du 3e siècle, donc ça veut dire 250 ans après, on a plus de 3 millions de chrétiens qui sont là, qui représente 2 à 3% de l'Empire romain, ce qui est énorme. Et on sait que sociologiquement, lorsqu'il y a 2 à 3% d'une population qui change complètement, ça a des impacts majeurs sur l'ensemble de la société. Voilà le récit. Maintenant, on va essayer de rentrer un tout petit peu dedans. Alors, je ne vais pas trop m'arrêter sur les grandes problématique autour de la question du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue. Je vais y passer en 5 minutes pour m'arrêter plutôt sur l'œuvre du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Ce qui est important à retenir, au moins pour se rafraîchir les idées, on voit que ce baptême du Saint-Esprit, ce moment, il est unique dans l'histoire et il a quatre étapes justes qui vont suivre après pour démontrer définitivement aux Juifs que l'Évangile maintenant est accessible à tout le monde et non pas simplement à ceux qui sont des Juifs ou des Juifs prosélytes. Et puis, comme on l'a lu dans le texte que cite Pierre sur Joël, c'est pour tout le monde, que ça soit les hommes, les femmes, les jeunes, les anciens, les serviteurs, les riches, les maîtres, tout le monde a ce même accès offert pareillement. Et ça, c'était quelle que soit sa race, son origine sociale, sa position dans la société, tout le monde et son genre, tout le monde était pleinement. L'évangile est ouvert à tout le monde. Et donc, on a ces quatre étapes. On voit d'abord quelque chose de similaire arriver sans forcément toutes les manifestations extérieures, c'est-à-dire les flammes de feu, etc. D'abord à Jérusalem, après avec les Samaritains, après avec Corneille, et puis avec les prosélytes qui avaient connu que le baptême de Jean. Et on voit une chose qui est indiscutable, que c'est une œuvre réalisée 100% par le Saint-Esprit, qu'on ne demande ni ne réclame, et qui se passe aujourd'hui automatiquement, parce que c'est l'œuvre de Christ, du Saint-Esprit et de Dieu en nous, qui opère là-dessus. Je ne m'arrête pas plus longtemps. Deuxième point, juste pour remettre certaines idées. Les deux termes, alors aujourd'hui, on se bat sur les deux termes grecs qui sont utilisés, mais c'est une dispute qui est relativement récente, c'est-à-dire qu'elle démarre au début du 19e, 20e siècle. Littéralement, ces deux termes ne méritent pas une distinction de sens profonde, l'un parlant de trucs un peu qui n'ont pas de sens, et l'autre qui parle de dialectes et de langues diverses et variées. Ces deux termes sont utilisés communément et parler, d'échanger, discuter, bavarder, et du langage par extension. Et toute conception d'un langage un petit peu qui n'a aucun rapport avec ce que nous pouvons connaître me semble assez contradictoire avec ce que fait Paul, qui agit, et on le voit en particulier en Corinthiens, mais pas que, de bien faire la différence entre ce qui se passe dans les temples, les pratiques dans les temples, et ce qui doit se passer dans l'assemblée. Et autant des extases et des pseudo-langages, on en connaissait et on en a connu toujours dans les temples et dans les rites divers et variés, autant dans l'assemblée de Dieu, ça n'a pas sa place. Par contre, on comprend bien l'utilité de ça, parce que dans le monde, il doit y en avoir près de 7000 langues parlées dans le monde. Et là, il y a quelque chose de phénoménal, c'est que à la fois la malédiction de Babel est tombée, de cette séparation des langues, et tout le monde peut se retrouver et communier dans le corps de Christ. Et puis, il faut se dire que tous ces premiers disciples ne connaissaient qu'une langue en général. L'araméen, ils ne connaissaient même pas la plupart l'hébreu. Et donc, comment accompagner l'évangélisation? Ils ont tous été chassés, ou presque chassés, lorsqu'il y a eu la destruction de Jérusalem dans les années 70. Et Dieu a permis, je pense, de ce don pour faire un booster. Et puis, ça sera mon dernier mot là-dessus, on voit que c'est juste utilisé, développé en 1 Corinthiens, qui est une des premières lettres dans les années 50. Et puis, on voit que dans toute la période apostolique, il y a un grand silence. Il y a, par exemple, Chrysostome qui dit impassable, obscur, et ces phénomènes non plus courts. Après, on voit quelques témoignages positifs, et dont un très intéressant, c'est Francis Xavier, qui est un missionnaire qui est allé en Inde et qui avait la capacité de parler des langues mais locales. Comme on sait qu'en Inde, c'est les Anglais qui ont mis la langue nationale, mais il y a des centaines de dialectes différents. Et puis après, on voit au travers de l'histoire des petits groupes où il y a eu toujours ces mouvements un petit peu extatiques avec du parler en langue incompréhensible. En fait, tout le boom est parti d'une idée d'un missionnaire et pasteur dans le Kansas qui se dit, si on arrive à remettre, à développer ce don du parler en langue, mais de parler des vrais dialectes, au lieu d'aller former des gens pendant des années pour leur apprendre la langue locale, utilisons ce don. Et comme ça, on les envoie et hop, ils pourront évangéliser sans apprendre la langue locale. Et ils l'ont fait. Et au bout d'un certain temps, assez vite, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et donc, ils sont revenus en arrière et ils ont commencé à inventer l'histoire de la glossolalie. Et c'est l'origine de la grande divergence de position sur ce sujet-là. Dernier point sur la Pentecôte, et avant de passer à, je regarde l'heure, sur le rôle du Saint-Esprit dans le plan divin. Parce que des fois, on a l'impression que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est là, de temps en temps, descend sur l'un ou l'autre, permet de faire des missions, et puis s'en va. Alors que maintenant, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans les croyants et il est présent. Et après, on utilise un petit verset de Thessaloniciens en disant « celui qui retient, celui qui… » etc. pour dire « bon, avec l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit va repartir ». Et ça me semble une conception totalement fausse. Pour plusieurs raisons. C'est que les principes généraux de Dieu et du salut à travers la Bible sont toujours les mêmes. Personne ne sera jamais sauvé autrement que par la foi et par la grâce. Personne. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et que comment un croyant de l'Ancien Testament pouvait-il avoir la conviction du péché, comme on le voit pour un certain nombre, si ce n'est par l'Esprit? Impossible. Et c'est bien le Saint-Esprit qui travaillant dans l'homme, au travers de la conscience, de la loi, des prophètes, on voit quand le prophète Nathan va voir David après son péché, mais on voit que le Saint-Esprit est là et va travailler dans le cœur de David pour l'amener à la repentance et à retrouver sa relation avec Dieu. Lorsque le Seigneur parle à Nicodème, qui était le théologien de référence de l'époque, et lui dit, mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et à un moment, et l'autre lui dit, mais comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Et le Seigneur lui dit, mais comment toi, le théologien de référence, tu ne comprends pas ces choses? Si le Seigneur dit ça veut dire que ça aurait dû pas être une nouveauté. On ne rentre dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu au sens large du terme, pas par nos mérites, pas par nos, je sais pas quoi, simplement parce qu'on est né de l'Esprit. Et c'est vrai dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Comment Énoch a-t-il marché par la foi? A-t-il marché avec Dieu? Selon quel principe? De telle sorte que Dieu a eu tellement de plaisir de marcher avec Énoch qu'il l'a enlevé directement. Il a marché par la foi et par l'Esprit. Abraham, pareil. Et Moïse, et on pourrait citer tous les hommes de Dieu et femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont tous marché par la foi et par l'Esprit, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de plaire à Dieu. Et on voit en plus, bien sûr, que l'Esprit remplit des personnes de façon spécifique pour des missions particulières. Comme on le voit que quand il y a la nomination des 70 anciens par Moïse, ou quand on voit Bezalel qui est doté particulièrement pour construire le tabernacle, et les autres. Alors, quelles sont les grandes nouveautés que la parole de Dieu nous montre? C'est la création de ce corps dans lequel tout le monde a sa place, et un corps, et c'est le thème de l'apôtre Paul en Romains, dans le milieu du livre, en disant maintenant, effectivement, il y a les racines, l'arbre qui est là, mais tout le monde maintenant a accès et peut faire partie de ce seul et unique corps, avec une spécificité particulière, c'est que non seulement il y a une relation avec Dieu, mais avec Christ Jésus, cet homme-Dieu, qui a pleinement vécu sur cette terre en conformité avec la pensée de Dieu et de son Père, et qui est aujourd'hui à la droite du Père, et qui nous envoie, qui a reçu en tant que Jésus-Christ le Saint-Esprit, et nous le partage, ce qui nous permet aujourd'hui d'être unis à lui et lui en nous. Et puis, comme on l'a vu, non, et on voit que maintenant, dans ce corps, tout le monde a des dons, et que les dons et les missions ne sont pas réservés à une partie des personnes, mais sont réservés à tout le monde. Et tout le monde en a reçu, et tout le monde doit contribuer à l'avancée du royaume de Dieu. Et enfin, il nous donne la puissance d'aller pour aller témoigner jusqu'au bout de la terre. Et lorsque dans ce texte de Jean 14, où il dit « Car il demeure avec vous et sera en vous », souvent on dit oui, mais avant, autrefois, le Saint-Esprit était avec, maintenant il va être en. Alors c'est un peu limité comme interprétation pour deux raisons. La première raison, c'est que dans l'Ancien Testament, on voit aussi que les personnes avaient l'Esprit en eux. Et puis quand on prend le baptême du Seigneur, il est dit, le Saint-Esprit descendit sur lui. Ah mince, il est que sur lui, il n'est pas en lui. quand on tire trop les mots, on est amené à des fois à dire un peu des bêtises. Qu'est-ce que le texte, dans son contexte, nous donne? C'est que le Seigneur, il dit, le Saint-Esprit, il est avec vous et avec ses mots, parce qu'il est avec moi. Et vous voyez en moi l'œuvre du Saint-Esprit du premier jour au dernier jour. Vous voyez comment le Saint-Esprit intervient dans mon enseignement, dans ma vie, dans mon comportement, dans ma mort, dans ma résurrection, etc. Et c'est pour ça, c'est le texte qu'a lu tout à l'heure Joël, je vais m'en aller, mais bien sûr, le Saint-Esprit est avec moi. Mais je vais vous le renvoyer de telle manière qu'il soit dans chacun de vous, et quel que soit où vous trouviez dans ce monde, vous ayez la même chose que moi j'ai eue en tant qu'homme sur cette terre. Et le Saint-Esprit fera avec vous la même chose qu'il a fait avec moi. Alors, maintenant, je vous invite à regarder de façon un peu transverse, au travers de cinq plans, l'œuvre du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Le premier point, c'est une histoire de temple. Alors, vous allez dire, ça vient d'où ça? Lorsqu'on ouvre la première page de la Bible, Genèse 1, et on voit que la terre était tohu-bohu, et l'Esprit de Dieu planait dessus. Ce n'était pas qu'il était en train de gérer le chaos et la confusion, mais on voit que le Saint-Esprit est présenté. Parce que c'est lui qui va être l'œuvre active pour mettre de l'ordre dans cet univers et pour faire de cet univers un écrin, un joyau, avec cet espace sacré ou le temple, qu'est le jardin d'Éden, pour que le plan de Dieu, qui est double, d'habiter avec son peuple, et on connaît tout ce verset qui se répète constamment, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est un des grands fils conducteurs du plan de Dieu, et puis celui d'offrir une épouse à son fils. Et le Saint-Esprit, on le voit dans la première page de la Genèse, pour faire de cet univers, cet écrin et cet espace sacré où Dieu et l'homme vont pouvoir habiter ensemble, communiquer, s'aimer et vivre ensemble. On connaît la suite, on sait que ça ne s'est pas très bien passé. Et puis, il y a Israël qui sort. Et là, à nouveau, on voit le Saint-Esprit qui va inspirer ces hommes, ces artisans, pour faire de ce temple ce nouvel espace sacré où Dieu va venir habiter au milieu de son peuple. Et puis, avec le temple de Salomon. Et puis après les déportations, destruction de Jérusalem et tout ça, la matérialité des temples va disparaître. Et elle va recommencer dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, où il va dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. En Jésus-Christ, homme-Dieu, il y a cette habitation, cette nouvelle, ce qui est le plan de Dieu qui se concrétise dans la personne du Seigneur. Et puis, et ça c'est le démarrage avec la Pentecôte, et qui va se concrétiser dans l'Église et dans chacun des individus, devenant cet espace sacré où le Saint-Esprit vient et prépare cette habitation pour Dieu. Et puis on finit en Apocalypse avec cette nouvelle Jérusalem où le Seigneur lui-même est au milieu de tout ça. Une histoire de temple. Et l'œuvre du Saint-Esprit, elle travaille à ça. Parce que le plan de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous. Que ça soit en église ou en individu, et d'avoir cette relation, cette intimité. C'est son grand chantier. Alors, non seulement de créer cet espace, mais de nous apprendre à avoir ce face-à-face avec Dieu. Et j'aime bien ce verset de Psaume 51, lorsque David, après son péché et sa repentance, il va dire « Détourne ton regard de mes péchés, efface de toutes mes iniquités, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et on voit que ces deux notions, la face de Dieu et l'Esprit Saint, sont deux notions qui sont, c'est comme les deux pièces d'une monnaie. Parce que c'est ce face-à-face auquel Dieu aspire. Et c'est ce face-à-face auquel aussi on voit les croyants dans l'Ancien Testament, ils aspiraient. Et Moïse qui va supplier, montre-moi ta face. On voit ces croyants qui désirent rencontrer Dieu, vivre avec lui, de le comprendre et de voir sa gloire. Et c'est la promesse que le Seigneur fera aussi. Et on voit toujours ces deux choses qui vont bien ensemble en Ézéchiel. Et je ne leur cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur va dire aussi, mais avec l'esprit que je vais vous envoyer, vous me verrez peut-être plus physiquement, mais vous me verrez par les yeux spirituels. Et c'est comme ce qu'il va dire à Marie à la résurrection dans le jardin à côté du tombeau. Ne t'accroche pas à moi, ne te fixe pas à moi, mais découvre-moi autrement. Parce que je vais bientôt partir. Elle a besoin que ses yeux s'ouvrent et son cœur s'ouvre pour être capable de développer une nouvelle relation, un nouveau face-à-face. Pendant 3 ans et demi, c'était du physique, il mangeait là, il servait, il fait. Et là, ça va être une nouvelle relation, une nouvelle dynamique. Et je finis avec ce texte de Corinthiens qu'on connaît. Et c'est l'œuvre-là du Saint-Esprit, c'est de nous amener dans une condition pour que nous soyons capables de voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dès à présent, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous avons encore plein de limitations, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image. La deuxième grande mission du Saint-Esprit, c'est de nous rapprocher de Dieu et de nous apprendre à avoir ce face-à-face, à attiser dans notre cœur ce désir de voir le Seigneur et au travers du Seigneur de voir le Père, et puis la joie de Dieu de communier avec nous et de partager avec nous. Troisième regard, c'est le compagnon de Jésus sur cette terre. On voit que, avant ça, même depuis l'annonce à Marie de la conception virginale qu'elle va vivre, on voit le Saint-Esprit, il est du début jusqu'à la fin dans la vie du Seigneur. Lors de sa naissance, on le voit aussi de son enfance, il grandit en stature et en sagesse. Et on voit bien que l'Esprit est à l'œuvre, parce qu'on voit que quand il est à 12 ans au temple, il va dire à ses parents qui le cherchent, « Ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon père ?» C'est-à-dire qu'il a déjà compris, peut-être pas tout, mais il a déjà compris beaucoup, il a compris ce qu'il était et la mission qu'il avait à accomplir. Et puis on le voit bien sûr dans le baptême, et puis le Saint-Esprit qui va l'emmener dans le désert pour vivre ses tentations. Alors, le texte qui nous est donné des tentations dans les évangiles, c'est un espèce de concentré de toutes les tentations qu'il a pu vivre pendant ces 40 jours dans le désert. C'est pas un truc qui dure 5 minutes, hein, parce que si on le lit juste en dialogue comme ça, c'est 5 minutes max. Mais il a tout vécu pendant ces 40 jours. De telle manière qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une tentation auquel il dit, je ne comprends pas, non, je n'ai jamais vécu ça. Il a tout vécu. Et puis on voit l'Esprit de Dieu agir dans son ministère après, une fois qu'il a démarré son ministère, dans les enseignements et les miracles, parce que contrairement aux apocryphes, il n'a pas fait de miracles. Dans sa jeunesse, vous savez, quand vous lisez des apocryphes, il a pris la terre glaise, il a fait un petit oiseau, il y en a un qui était méchant avec lui, il lui a fait des trucs, donc il y a un certain nombre d'histoires qui traînent. Ça, c'est des affabulations. Et puis, le Saint-Esprit, il est là avec lui dans les moments les plus terribles. Il n'a pas abandonné à Gethsémané. Le Saint-Esprit est là, Et puis, il va être là à la résurrection, parce que la résurrection est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour en témoignage éclatant de cette œuvre parfaitement accomplie et définitivement accomplie. Et puis, il est là à l'ascension, et bien sûr, l'ascension se finit avec la Pentecôte, où il revient, parce que Christ, homme, Dieu, est à glorifier, a reçu la gloire qui renvoie au chapitre 17 de Jean, et nous renvoie le Saint-Esprit, et c'est Jésus-Christ qui vient habiter par le Saint-Esprit en nous et qui nous vit. Désolé d'aller un peu vite, mais je regarde juste le temps. Quatrième mission, c'est de faire des bons à rien comme nous, parce que c'est ça que nous sommes. Dans nos péchés, nous sommes juste des bons à rien, bons pour la décharge. Et sans recyclage possible, en plus. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous métamorphoser. De ver de terre ou de chenille, de nous transformer en papillon. Et pour cela, il va faire plusieurs choses. Il va bien sûr nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Je n'ai pas le temps de trop développer ça. Et d'opérer en nous cette nouvelle naissance qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis, la chose peut-être la plus difficile, c'est de transformer nos fichus caractères dans quelque chose qui a la même saveur que le caractère de Jésus-Christ. Et c'est probablement son œuvre la plus dure, parce que nous sommes tellement difficiles à changer, et nous nous excusons tellement vite, c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est notre ADN, c'est la famille, c'est ceci, c'est cela. Non. Nous sommes tous appelés à être transformés, et à vivre ce fruit de l'esprit. Et puis enfin, il est là dans notre vie sur cette terre. Alors il y a ce terme consolateur, je n'ai pas trop dans le temps de rentrer dans le détail, qui n'est pas une bonne traduction aujourd'hui, qui a été une bonne traduction dans un vieux anglais, etc. Mais aujourd'hui, on le traduirait plutôt par un coach. C'est pas simplement celui qui vient avec l'épaule, l'homme vient, t'es un peu fatigué, mets ton épaule, je te reviens. C'est celui qui nous... Le vrai terme, c'est quelqu'un qui est derrière les gars qui vont à la guerre pour les pousser, pour les empêcher de reculer et pour qu'ils avancent. Donc ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on a quand on lit le terme consolateur. Ce n'est pas le psycho auquel on raconte sa gentille vie. Ça fait partie, il est aussi là pour écouter nos... mais il est d'abord là pour nous faire grandir, nous faire avancer, nous faire progresser, nous éviter de nous enliser. Et en nous donnant la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel pour nous faire progresser. Et ça, c'est sa quatrième grande œuvre, faire produire la métamorphose, de faire des bons à rien, des gens qui sont utiles et fidèles. Et le dernier, il y en a d'autres, hein, mais c'est là où je suis partial, parce que j'ai choisi juste ces cinq. Il crée une nouvelle communauté qui est basée sur de tout nouveaux principes. Et ça, c'est une révolution universelle, parce que ça n'a jamais existé. Une communauté dans laquelle tout le monde a sa place. Tout le monde qui est passé par l'étape de la nouvelle naissance a sa place, quelle que soit sa race, son origine, son âge, son statut social. On est tous intégrés au corps de Christ, dont Christ lui-même est la tête. Et pour nous permettre de vivre, nous avons reçu l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer nos frères et de nos sœurs, d'aimer notre tête, notre Christ, notre bien-aimé, Sauveur et Seigneur. Et c'est par cet amour que nous pouvons démontrer, et ça c'est des thèmes de Jean, l'apôtre, entre autres, que cette communauté, elle est totalement différente. Où y a-t-il une communauté basée sur l'amour, dont les liens sont liés, l'amour pour Dieu, l'amour pour ses frères et ses sœurs, et par extension, l'amour pour son prochain. et dans lequel il va dispenser les dons, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons. Alors personne ne peut dire, moi j'ai été oublié, nous en avons tous. Alors des fois, on les cherche un petit peu, mais ils sont là, mais ils ne sont non plus pas forcément les mêmes pendant toute notre vie. Et ça, on le voit, donc, quand on regarde les biographies, on voit souvent que Dieu évolue dans les dons qu'il donne à ses enfants, parce qu'il n'attend pas forcément de nous la même chose à 25 ans, 35 ans, 55 ans, 75 ans. Et donc, il adapte les dons par rapport à ce qu'il attend de nous à l'âge que nous avons. Et puis, il conduit la communauté en disant « Mettez à part !» Et on voit qu'il joue un rôle actif pour... Et on le veut aussi dans nos cultes, dans nos réunions, pour que ça soit vraiment lui qui soit le chef d'orchestre pour la gloire de Dieu. Et qu'à nouveau, que Dieu soit heureux d'habiter au milieu de nous. Non seulement lorsque nous sommes dispersés dans nos maisons, dans notre travail, mais aussi lorsque nous sommes rassemblés. Et enfin, il nous équipe pour des missions spéciales. Là, c'était Barnabas et Paul. Et enfin, comme l'a évoqué Joël, il travaille en nous et dans l'Église pour nous préparer aux retrouvailles lorsque le Seigneur reviendra et va développer en nous à la fois l'espérance et la vigilance, reprenant ce que le Seigneur disait, « Veillez et priez pour que vous n'entriez pas en tentation. » Le Saint-Esprit au cœur de la communauté. Et je finirai par la troisième partie. Pardon. Hop. Hop. Mince. Désolé. Qui résume un petit peu ce qu'on a dit, mais qu'est-ce que au quotidien ? L'Esprit de Dieu travaille au quotidien pour tisser notre relation avec Jésus-Christ et avec le Père, pour changer nos caractères, nos comportements, mais aussi pour apprendre à vivre pieusement dans un monde complexe, difficile, et j'aime bien ce texte de Jude, à celui qui est capable de vous garder irréprochable. Et ça, c'était vrai hier, et c'est pas dire aujourd'hui, 21e siècle, c'est trop compliqué, ça, etc., etc. Si Dieu nous laisse ici, c'est que nous pouvons travailler, nous pouvons vivre pieusement et être irréprochables. Sinon, il n'aurait pas écrit. Et pour être ses témoins, et bien sûr, pour être ses serviteurs fidèles et faire fructifier nos talents. Alors, je ne vais pas les développer parce que vous connaissez ça, mais je trouve qu'il y a trois pièges que j'aimerais souligner avant de conclure. La première, c'est qu'on a trop tendance à faire des oppositions malheureuses. Parce que lorsqu'on parle de la vie par l'esprit, on pense à une espèce de vie spirituelle, lire sa Bible, prier, évangéliser, et qu'on va opposer quelque part à la vie matérielle. Et ça, c'est une opposition que la Bible ne fait pas. L'opposition qu'elle fait, c'est que d'un côté, il y a la vie spirituelle et il y a la vie charnelle. Et l'apôtre Paul, en main passage, va dire, et pas que lui, va dire, mais pourquoi vous revenez à votre vie charnelle alors que vous êtes passé par la métamorphose qui vous a amené dans le royaume de Dieu et qui, avec l'esprit qui est en vous aujourd'hui, pour vous permettre de vivre différemment, non pas par vos petits bras, mais parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Le même esprit qui a accompagné Jésus du début à la fin, c'est lui qui est en vous et qui va faire le même travail qu'avec le Seigneur. Sauf que nous, on a notre chair, le Seigneur n'avait pas. Mais on comprend l'idée, c'est qu'il a cette même présence, cette même puissance, cette même sagesse, cette même intelligence. Elle est là pour nous accompagner dans cette route et que... La question, ce que je mêle, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait, c'est plus comment on le fait et pourquoi je le fais. Et qu'être spirituel, et je pense qu'on en avait parlé la dernière fois que je t'ai passé, Être spirituel, ce n'est pas forcément de dire ce calcul aux heures que je passe à lire ma Bible par semaine. C'est toujours un critère intéressant, mais ce n'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut être aussi très spirituel en faisant le ménage, en allant au boulot et en faisant d'autres choses. C'est la façon de comment on le fait et pourquoi on fait les choses qui est la question essentielle. Deuxième opposition malheureuse, et c'est un peu une approche, c'est un peu lié, c'est un peu cette vision schizophrénique de la vie. Et pour beaucoup d'entre nous, on a une vision de la vie qui est décomposée. Il y a la vie publique, professionnelle, citoyen, sociale, etc. Il y a ma vie privée à la maison. Et puis, il y a de temps en temps, le dimanche, voilà, on est là, on a la vie d'église. Et on réfléchit comme si c'était trois mondes différents et on navigue de l'un à l'autre. Et malheureusement, on voit souvent des chrétiens, à l'église, ils sont magnifiques, au boulot, c'est des chiens, en tant que manager. Les chiens, c'est un peu dur, mais compliqué, on va dire. Compliqué à vivre. Pas forcément le fruit de l'esprit évident. À l'inverse, on voit des fois, on voit des gens qui sont dans la vie privée, qui sont magnifiques, mais qui en vie d'église sont d'incompliqués. Voilà, ça c'est l'aspect schizophrénique. Et je préfère toutes les combinaisons, dans un sens ou dans un autre. Et pour Dieu, il n'y a qu'une vie. Il n'y a qu'une vie, nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons que 24 heures par jour. Et c'est ces 24 heures qu'il faut vivre par l'esprit. Et il n'y a pas des moments plus et des moments moins, non, c'est ces 24 heures que Dieu nous donne et qu'il veut vivre avec nous. Le Saint-Esprit avec le Seigneur était 24 heures sur 24, était son compagnon 24 heures sur 24, et tout ce qu'il a fait, il a fait par l'Esprit. Et le troisième, c'est que des fois, notre théologie protestante nous amène à une certaine complaisance. En disant globalement, nous étions pécheurs, le Seigneur nous a sauvés, maintenant un jour nous serons dans la gloire, avec des corps de résurrection, etc. Et qu'entre les deux, nous sommes en marche. Et des fois, ça nous donne un petit peu de complaisance, parce qu'on se dit, bon, de toute façon, on est garanti du résultat, donc si je vais un peu plus vite ou un peu moins vite dans ma marche, pas si grave. Et ça, c'est un peu des raisonnements qu'on se fait tous à un moment ou à un autre. Et ce que je vous invite, c'est quand même à réfléchir sur deux choses. Alors, j'ai pris simplement un exemple. Et du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre elles, les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de personnes qui sont appelées justes par Dieu. Alors, ne faites pas une petite bascule, une petite culbute luthérienne en disant « Oui, mais c'était par anticipation la justice de Christ qui a été imputée sur eux. » Non, c'est pas ça. C'est que Dieu s'est tellement plu dans ses croyants et croyantes qu'il a eu la gloire, la joie plutôt, de les appeler justes. Siméon, un juste. Noé, un juste. Le juste Job, Lot. Job, un juste. Etc. Ces gens, ils ont vécu avec Dieu et Dieu a eu du plaisir à les, entre guillemets, labelliser justes. Ils ne sont pas parfaits, hein. Et ils ont besoin du sang de Christ pour être purifiés de leurs péchés, etc. Mais Dieu leur dit, c'est pas simplement une théorie viser la perfection. Non, non, il dit, voilà, il y a des hommes et des femmes à travers toute la parole de Dieu qui ont été à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de raison. Et lorsqu'il dit en Jude, le texte qu'on a cité, irréprochable dans ce monde, c'est pas de la théorie. Il y en a. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y en a dans le monde. Que Dieu se plaît à labelliser juste, pas parce qu'ils ont simplement accueilli des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que, au regard de la façon dont ils vivent, Dieu se réjouit à les regarder. Et puis, on voit que tout le monde n'a pas forcément. Il y a des niveaux différents. Alors, on a tous reçu le même esprit. Il n'y a pas, on ne reçoit pas le Saint-Esprit à moitié, trois quarts, 95%, 15%. Non, ça n'existe pas. Par contre, quand on voit, par exemple, dans ce texte de Actes, où, vous savez, il y avait la dispute sur les veuves, entre les veuves juives d'Israël et les hellénistes, choisissez parmi vous cet homme ce qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc tout le monde, même à cette époque, n'était pas plein de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc on comprend l'exhortation de l'apôtre Paul qui va dire en Éphésiens, travaillez à être rempli de l'Esprit. Parce que là, il y a aussi un vrai travail. Ce n'est pas pour avoir un peu plus d'esprit, ce n'est pas pour avoir un nouveau baptême du Saint-Esprit, mais c'est pour que le Saint-Esprit soit vraiment ait la place pour agir et pour nous amener dans ce processus de métamorphose jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Et je terminerai là-dessus. Alors, comment progresser de façon un peu plus concrète? Je pense que la première chose, c'est qu'on a besoin de se rappeler tous les matins que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de marcher avec Dieu. Et ça, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est effectivement, je ne le fais pas toujours, hein, je le reconnais, mais c'est le point de départ. Avoir cette conscience qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour marcher les prochaines 24 heures. Et puis, ce compagnonnage avec le Saint-Esprit, si vous me permettez l'expression, ça s'improvise pas, c'est pas un peu de temps en temps, c'est quelque chose dans la durée qu'on travaille en continu et qui va demander de la persévérance pour y arriver. On n'arrive à rien dans la parole de Dieu comme dans la vie sans cette persévérance. Et ça va demander deux grandes interrogations. Deux grandes interrogations, c'est la première, est-ce que mes choix de vie qui structurent ma vie me permettent d'être dans des conditions qui me permettent de développer et d'être favorable à l'expression de la vie de Dieu en moi? Et ça, j'ai pas le temps de le développer là. Et puis, je l'avais dit la dernière fois, vous savez que plus de 80% de nos décisions sont faites automatiquement. Et que ces automatismes, ils viennent des habitudes qu'on crée dans nos vies. Et ça veut dire que la deuxième chose à se poser dans notre vie, c'est quelles sont les habitudes et les routines qui structurent ma vie au quotidien, qui font que petit à petit, le Saint-Esprit arrive à nous faire grandir, à nous faire évoluer. Et il faut pas chercher des expériences, il ne faut pas chercher des choses, mais voir comment je gère ma vie structurellement et après au quotidien dans ces routines pour être capable de progresser. Et je terminerai juste par ce verset que j'ai déjà évoqué. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.